Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue à l'édition du mardi 30 juin 2015 du Monde Aujourd'hui au micro Camille Grosdidier et Morgane Guiriec. À la une ce soir.
Burkina Faso, manifestation de colère du régiment de sécurité présidentielle.
Il y a une médiation qui est en train d'être menée par l'ancien chef d'État burkinabé en accord avec le chef d'État de la transition Michel Kafando autour évidemment des différends qui opposent le RSP, donc le régiment de sécurité présidentielle et le premier ministre.
Le rédacteur de l'événement, Newton Ahmed Barry, reviendra sur les événements.
Des femmes et des filles brûlées vives après avoir subi des sévices dans l'état de Unity au Soudan du Sud, selon les Nations Unies.
En Côte d'Ivoire, la faible participation à l'opération de révision du fichier électoral pourrait refléter la fracture politique.
Le public aujourd'hui, pour un observateur averti de la vie politique ivoirienne, devrait se rendre compte qu'il y a une fracture suite à la crise post-électorale. Et cette fracture qui a mis deux camps en face n'a pas, à la date d'aujourd'hui, pu être fermée.
On entendra le docteur Christophe Kwame, analyste politique et membre de la société civile ivoirienne.
La Grèce devait être en défaut de paiement à minuit ce mardi.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Un nouveau cas de fièvre hémorragique à virus Ebola signalé au Libéria. Un jeune homme de 17 ans est décédé de la fièvre seulement 7 semaines après que l'Organisation mondiale de la santé eut déclaré l'éradication de la maladie. Les autorités sanitaires tentent de déterminer comment le malade a contracté le virus. On écoute Félix Yepassis Zimbrou.
Le jeune homme est décédé le 24 juin dans le comté de Marguibi, loin des frontières de la Guinée et de la Sierra Leone, les deux autres foyers de l'Ebola. Le ministre adjoint de la Santé, Tolbert Nyenswa, en charge de la lutte contre Ebola du Libéria, a fait savoir que ses services ignorent comment l'adolescent a contracté la maladie, mais une enquête a été ouverte et il a exhorté les populations à ne pas céder à la panique. Un message qui semble être tombé dans des oreilles de sourds, étant donné le traumatisme dans lequel baignent les populations. Confort Freeman, mère de 4 enfants, ne peut s'empêcher d'être inquiète.
Nous, les grandes personnes, nous pouvons prendre des précautions, mais les enfants ne peuvent pas en faire autant. Donc je me sens si diminuée ce matin. Nous mettons notre foi en Dieu. Avec lui, tout est possible.
Le virus Ebola a tué plus de 11 100 personnes depuis le début de l'épidémie à la fin de décembre 2013 au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone.
Un rapport de l'ONU publié aujourd'hui accuse les troupes sud-soudanaises d'avoir violé et brûlé des femmes et des filles dans le nord du pays. Les précisions de Lionel Gaïma.
Des enquêteurs de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud ont relevé des violations généralisées des droits humains par l'armée sud-soudanaise, la SPLA, et ses alliés contre les populations de l'État d'unité. S'appuyant sur les témoignages de 115 victimes témoins, le rapport cite des cas d'enlèvement, de torture et des viols de femmes et des filles dont certaines auraient été brûlées vives dans leur maison. Les survivants de ces attaques ont affirmé que la SPLA et ses milices alliées du département du Mayom ont mené une campagne contre la population locale, tuant des civils, pillant et détruisant les villages et provoquant le déplacement de plus de 100 000 personnes, souligne le communiqué de l'ONU. Pour Hélène Margaret Lodge, représentante spéciale du secrétaire général et le chef de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, l'ampleur et le niveau de cruauté qui caractérisent ces informations suggèrent une animosité qui dépasse les clivages politiques. Révéler la vérité au sujet de ces événements offre le meilleur espoir de rompre le cycle d'impunité, a-t-elle ajouté.
La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a réitéré lundi devant le Conseil de sécurité de l'ONU la détermination de la Cour à obtenir l'arrestation du président soudanais Omar Hassan al-Béchir. Ce dernier fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI depuis 2009. Il est poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour, où les violences ont fait plus de 300 000 morts depuis 2003.
La compilation des résultats se poursuivait aujourd'hui au Burundi, sans grand suspense, au lendemain des résultats d'élections législatives et communales, qui, selon l'AFP, devraient consacrer la victoire du président Pierre Nkurunziza et de ses alliés. L'opposition et la société civile qui avaient appelé au boycott ont fustigé une parodie d'élection. De son côté, la communauté internationale a quasi unanimement dénoncé la tenue de ces scrutins par les autorités burundaises, sourdes aux appels à les reporter. Jacques Aristide.
Les candidats élus ne seront pas nos députés, ils ne nous représenteront ni au conseil communal ni au parlement. Ils tenteront de représenter leur maître Nkurunziza, mais le pays nous appartient, nous ne l'accepterons pas, écrit sur Facebook un des dirigeants de la contestation pacifique Anini Nahazwe. L'Union européenne, principal partenaire du Burundi, a qualifié la tenue de ces élections de faits graves, susceptibles d'exacerber la crise et menacer de mettre en branle les mécanismes menant à la suspension de sa coopération avec le pays, très largement dépendant de l'aide extérieure. Les États-Unis se sont dit profondément déçus car ces législatives ont été organisées dans des conditions terriblement inadéquates. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, se dit pour sa part préoccupée par la grave situation politique et sécuritaire au Burundi.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté lundi une résolution qui proroge le mandat de la MINUSMA, la mission onusienne au Mali, jusqu'au 30 juin 2016. Le Conseil s'est félicité de la signature par le gouvernement malien et les coalitions de groupes armés, plateformes et coordination des mouvements de l'Azawad, de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali.
Au Burkina Faso, une dizaine de soldats de la garde présidentielle ont été mis aux arrêts pour avoir tiré lundi soir des coups de feu en l'air dans l'enceinte de leur caserne. C'est ce que rapporte l'AFP, qui cite deux officiers de ce corps d'élite et une source diplomatique. La garde présidentielle a manifesté sa colère lundi soir en tirant en l'air près du palais présidentiel à Ouagadougou. Et des éléments de cette garde protestaient contre des rumeurs selon lesquelles une action devait être fomentée contre le Premier ministre Isaac Zida à son retour dimanche d'un voyage officiel à Taïwan, ce qui n'a pas été le cas et nous en reviendrons en seconde partie d'émission.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le groupe État islamique a de nouveau frappé au Yémen. Au moins 28 personnes, dont 8 femmes, sont mortes dans un attentat à la voiture piégée contre des membres de la rébellion chiite, réunis pour une cérémonie de deuil. L'EI a indiqué dans un communiqué que l'attaque de mardi était dirigée contre l'un des nids des chiites à Sanaa, la capitale yéménite, aux mains des rebelles.
Par ailleurs, en Syrie, le groupe État islamique regagne du terrain. Les djihadistes ont pénétré dans la ville de Tal Abyad, près de la frontière turque. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme cité par l'AFP, les islamistes ont pris le contrôle d'un quartier deux semaines après en avoir été chassés par les combattants kurdes, les Kurdes qui chercheraient à encercler les djihadistes et les empêcher d'avancer.
Le groupe État islamique aurait pour la première fois décapité des femmes en Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces femmes auraient été tuées aux côtés de leur mari dans la province orientale de Deir ez-Zor après avoir été accusées de sorcellerie.
Les pourparlers sur le nucléaire iranien vont se poursuivre jusqu'au 7 juillet, ont annoncé aujourd'hui des officiels américains. Les négociateurs s'étaient pourtant donnés jusqu'à ce mardi 30 juin pour arriver à un accord définitif. Les précisions d'Idrissa Seydoudia.
Selon la porte-parole américaine Mary Half, les participants ont décidé d'aller au-delà de cette date butoir pour donner plus de temps aux négociations afin d'arriver à une solution à long terme. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, qui est revenu à Vienne après des consultations à Téhéran, a rencontré le secrétaire d'État américain John Kerry, qui a dit avoir eu une bonne conversation avec son homologue iranien. Les négociateurs ne révèlent rien sur les détails de ces négociations entre les États-Unis, leur partenaire du P5+1 et l'Iran. Mais selon certains observateurs, les pourparlers buteraient, entre autres, sur l'accès des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique au site iranien, ainsi que le calendrier de la levée des sanctions contre Téhéran. L'accord final auquel les négociateurs espèrent aboutir dans les prochains jours doit garantir le caractère pacifique du programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions internationales qui affectent l'économie de ce pays.
Course à la présidence ici aux États-Unis, Chris Christie, gouverneur républicain de New Jersey, a annoncé sa candidature, promettant aux Américains de leur dire les choses telles qu'elles sont. Il est le 14e candidat, briguant l'investiture de son parti pour l'élection présidentielle de 2016.
Et au Koweït, le ministre de l'Intérieur a annoncé le démantèlement d'une cellule terroriste responsable de l'attentat suicide anti-chiite qui a fait vendredi 26 morts. C'est ce que rapporte l'AFP. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. La Minute Éco ce soir avec Nathalie Barge.
L'autre business de la NSA, titre à la une ce mardi le quotidien français Libération, disant que des nouveaux documents dévoilés par le journal en collaboration avec Wikileaks montrent que l'administration américaine se serait livrée à un espionnage économique massif de la France visant les gros contrats. Selon les documents, au moins deux ministres français de l'économie auraient été surveillés par l'agence de renseignement américaine, François Baroin et Pierre Moscovici, ce dernier étant également commissaire européen aux affaires économiques et financières. Selon le journal Le Monde, l'agence nationale de sécurité américaine montre une connaissance très précise du contenu d'une conversation de M. Moscovici avec le sénateur socialiste Martial Bourquin. Un autre document résume la position de M. Baroin avant des sommets économiques en 2012. Et une note mentionne des critiques formulées par l'ex-président Nicolas Sarkozy contre l'OMC en 2008. La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 22 avril au tribunal de première instance de Bobigny, disant que la saisie du Boeing Decker le 11 avril à Roissy était illégale, rapporte l'organisation de presse africaine. La partie adverse a été condamnée à verser des dommages et intérêts à la compagnie aérienne de la République du Congo. Facebook a annoncé l'ouverture de son premier bureau en Afrique, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Facebook revendique 120 millions d'utilisateurs actifs sur le continent en juin, une hausse de 20% sur un an.
Voilà, merci Nathalie Barge pour la Minute Éco. On enchaîne avec les sports.
Plein feu sur les stades. Bonsoir Timothée Donongmaï.
Bonsoir Morgane.
Coupe du monde football féminin, la première demi-finale oppose ce soir à Montréal les États-Unis à l'Allemagne.
Et Morgan, c'est presque une finale. En tout cas, c'est l'avis de l'attaquante américaine Alex Morgan, votre homonyme, qui note que c'est un choc entre les deux meilleures équipes du monde. Les Allemandes ont eu un beau parcours, mais les Américaines se sont améliorées match après match, a-t-elle souligné. L'autre demi-finale opposera demain les Anglaises aux championnes en titre, les Japonaises. Morgan, on se rappelle que celles-ci avaient battu les Américaines au titre au but pour remporter le trophée mondial 2011.
En Copa América, on connaîtra ce soir l'adversaire en finale du pays hôte, le Chili.
Les Chiliens qui ont défait hier les Péruviens 2-1 suivront avec un grand intérêt le duel de ce soir entre l'Argentine et le Paraguay.
Toujours en football, le Ghanéen Sully Muntari quitte l'AC Milan.
C'est une séparation à l'amiable, a fait savoir le club italien sur son site internet. Muntari, qui avait signé à l'AC en 2012, n'a disputé que 16 matchs cette saison, n'inscrivant que 2 buts.
Vive crainte des footballeurs étrangers évoluant en Grèce face à la crise économique à laquelle est confronté ce pays.
Des craintes tout à fait fondées, Morgan, puisque ces footballeurs redoutent une forte dévaluation de leur contrat en cas de sortie de la Grèce de la zone euro. Selon Goal, plusieurs agents de joueurs ont déjà demandé aux clubs grecs comme l'Olympiakos, le Panathinaikos, la EK Athènes, le PAOK Salonique, une clause pour que, dans le cas d'un changement de monnaie, les joueurs soient payés dans la monnaie convenue antérieurement lors de la signature du contrat, c'est-à-dire l'euro.
Et pour terminer, Timothée, quelques résultats du premier tour au tournoi de tennis de Wimbledon.
Et oui, Morgan, chez les messieurs, Roger Federer a défait Damir Dzumhur en 3-7. Victoire de Rafael Nadal en 3-7 aussi face à Thomas Bellucci. Sam Querrey s'est imposé en 3-7 face à Igor Swiatek. Chez les dames, Angélique Kerber s'est imposée en 2-7 face à Karina Witthoff. Et Petra Kvitova a défait en 2-7 Kiki Bertens.
Voilà pour le tennis. Et je tiens à dire que de tous les sports, c'est le seul que je regarde de temps en temps. Voilà.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Camille Grodidier et Morgan Guérillac en votre compagnie. Place au dossier du jour et la première escale est le Burkina Faso.
Nouvelle tension entre le Premier ministre Isaac Zida et le RSP, la garde présidentielle. Après des rumeurs de coup d'État, trois officiers ont été convoqués, déclenchant la colère de soldats du RSP qui ont alors tiré en l'air pendant plusieurs minutes. Alors faut-il s'inquiéter de ces sauts d'humeur du service d'élite de protection de la présidence ? Élément d'analyse avec le rédacteur en chef du quotidien L'Événement, Newton Ahmed Barry.
Actuellement, il y a une médiation qui est en train d'être menée par l'ancien chef d'État burkinabé, Jean-Baptiste Ouédraogo, en accord avec le chef d'État de la transition, Michel Kafando, autour évidemment du différend qui oppose le RSP, donc le régiment de sécurité présidentielle, et le Premier ministre Zida. À la situation actuellement, qu'est-ce qui s'est passé donc? Depuis deux jours, il y a eu des rumeurs d'abord dans les premiers temps, disant que le régiment voulait attenter à la vie du Premier ministre, qui était en voyage officiel en Chine, et que l'attentat devait se perpétrer à son retour. Évidemment, le RSP a démenti n'avoir jamais eu cette intention, mais il se trouve quand même que le 28, quand l'avion du Premier ministre atterrit, il n'atterrit pas à l'aéroport international, mais dans un camp militaire, c'est-à-dire à la base aérienne. Et donc, c'est là où le problème commence, parce que le lendemain, des officiers du régiment sont convoqués par la gendarmerie, et ce qui met la troupe en émoi. Leurs camarades de toute la troupe se fâchent.
Est-ce que vous pensez que ça pourrait coûter son poste de Premier ministre à Isaac Zida ?
Aujourd'hui, le RSP met sérieusement en balance, évidemment, le poste de Premier ministre de Zida. Il revendique deux choses importantes en disant d'abord qu'il ne veut plus des militaires au niveau de la gouvernance de la transition. Et donc, Zida devrait démissionner et avec lui, tous les militaires qui sont au niveau du gouvernement. Il semble que c'est la solution à la crise actuelle.
Et le retour sur le devant de la scène de l'ancien président Ouédraogo, qu'en pensez-vous ?
Évidemment, c'est un personnage qui est beaucoup sollicité en situation de crise. En février, c'était lui également qui avait été sollicité pour essayer d'arbitrer le différend entre le RSP et Zida. Cette fois encore, c'est lui qui est là. Évidemment, je pense que comme c'est un ancien militaire, donc un officier supérieur à la retraite, probablement que les éléments l'écoutent.
Selon votre analyse, est-ce que la situation pourrait dégénérer ?
Il n'est pas exclu qu'elle dégénère si une solution n'est pas trouvée dans les jours à venir, très rapidement d'ailleurs, parce que les éléments du RSP sont dans une nervosité qui peut conduire à tous les dérapages possibles. D'ailleurs, ce matin, ils ont fait la ronde d'un certain nombre de médias en disant très clairement qu'ils allaient procéder à l'arrestation du Premier ministre parce qu'il s'était illicitement enrichi. Lui est le ministre de l'administration territoriale qui se trouve aussi être un militaire, un colonel en l'occurrence.
Ahmed Barry, rédacteur en chef du quotidien L'Événement, joint par Claire Morin-Gibourg.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Le Burundi après les législatives et communales. La prochaine étape, la présidentielle prévue le 15 juillet où le président Nkurunziza briguera un troisième mandat, une candidature contestée. À quoi faut-il s'attendre de l'actuel processus électoral ? Le pays va-t-il s'enfoncer davantage dans la crise ? Que faut-il faire maintenant pour sauver le Burundi ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
En Côte d'Ivoire, la Commission électorale indépendante a proposé au gouvernement la prorogation du délai de révision de la liste électorale. L'opération de révision du fichier électoral débutée le 1er juin devrait prendre fin ce mardi 30 juin. Mais pour les nouveaux majeurs, moins de 500 000 personnes ont été enrôlées sur les 3 millions de potentiels nouveaux électeurs attendus. Pour en savoir davantage sur cette désaffection, on écoute le docteur Christophe Kouamé, analyste politique et membre de la société civile ivoirienne.
Il y a une fracture suite à la crise post-électorale. Et cette fracture qui a mis deux camps en face n'a pas, à la date d'aujourd'hui, pu être fermée. Constatez vous-même que le président de la CDVR, aujourd'hui candidat, joue contre les citoyens ivoiriens qu'il était censé interroger pour arriver à la réconciliation. Donc, le petit peuple s'y perd entre l'ancien président de la CDVR qui attaque le pouvoir en place, le pouvoir en place qui attaque les partis d'opposition qui sont divisés. Donc dans une atmosphère comme ça, le citoyen lambda ne se retrouve plus. Nous pensons que le public, déjà sa peur qui est née suite à la crise post-électorale n'est pas partie. Et nous n'avons pas vu la société civile elle-même être mobilisée pour sensibiliser les citoyens comme par le passé, ça s'était fait en 2010.
La CEI, la Commission électorale indépendante, s'apprête donc à apparemment à reporter l'opération, à étendre l'opération. Oui. Est-ce que la solution oui. serait dans cette extension?
Aujourd'hui, nous allons étendre de 12 jours, c'est-à-dire, je dirais, 7 jours ouvrables. Mais sur ces 12 jours, est-ce que la sensibilisation, l'information, je dirais, l'approche citoyenne va changer dans ces 12 jours? Je n'ai rien vu de publier sur cela. Si c'est pour employer les mêmes techniques pour dire aux gens avec des grosses pancartes, allez vous enrôler, je pense qu'on ne va pas atteindre les objectifs qui sont à peu près respectés de 70%.
Qui doit avoir le devoir d'initiative pour remettre sur les rails le processus électoral?
Il y a deux initiatives possibles. Il y a la société civile elle-même qui aujourd'hui, tous ceux qui sont leaders, qui doivent au même s'auto-saisir parce qu'ils ont une légitimité sociale qu'ils doivent employer dès maintenant à écrire à la CEI, taper à la porte de la CEI pour dire nous sommes citoyens, pour nous, nous n'allons pas jouer aux pompiers cette année. Donc donnez-nous la possibilité, donnez-nous les moyens, donnez-nous l'accréditation pour que nous fassions un minimum de 2 ou 3 jours de sensibilisation. Mais la plus grande partie de cette sensibilisation et de cette information doit venir de l'exécutif. L'État de Côte d'Ivoire doit appuyer la CEI pour que, de l'autre côté aussi, la sensibilisation institutionnelle se fasse. Donc pour nous, la troisième partie, ce serait les partis politiques. Il faut absolument que le cadre de concertation gouvernement-partis politiques soit un cadre aussi dans lequel le gouvernement qui reçoit les partis politiques de l'opposition puisse sensibiliser les partis politiques pour qu'ils adhèrent à cette sensibilisation commune là pour que les populations puissent aller s'enrôler sur les 12 jours qu'on va nous donner.
Le docteur Christophe Kouamé, analyste politique et membre de la société civile ivoirienne, il était joint à Abidjan par Jean-Roger Bion.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Et nous partons maintenant au Togo. Le nouveau Premier ministre Komi Sélom Klassou était hier devant les parlementaires. Il est allé solliciter leur vote pour son programme d'action gouvernemental. Les députés ont adopté le programme par 65 voix et il y a eu 7 abstentions. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Le Premier ministre Komi Sélom Klassou a indiqué que sa feuille de route comprend 4 axes fondamentaux avec comme priorité la gouvernance économique.
S'agissant de la poursuite des réformes structurelles, elle sera articulée avec une intensité accrue autour des exigences de la gouvernance économique. L'opérationnalisation de l'OTR sera à cet effet l'une des priorités immédiates du gouvernement. Le gouvernement entend accélérer le processus de mise en place de la haute autorité de la lutte contre la corruption. Dans le domaine des mines, l'action du gouvernement s'articulera autour de la réaffirmation du rôle majeur de l'État dans ce secteur clé. La construction d'infrastructures socio-économiques au profit des localités de la zone de production devront naturellement accompagner ce développement.
Le nouveau gouvernement togolais composé de 25 postes ministériels avec comme grand absent le département des droits de l'homme. Une situation qui renforce l'inquiétude des organisations de défense des droits de l'homme à la veille de la fermeture du bureau Togo du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Spero Maoulé, président du collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT.
À l'état actuel de notre démocratie, il serait vraiment bizarre qu'on n'ait pas un ministère chargé des droits de l'homme ou tout au moins un ministère chargé de la consolidation de la démocratie. Et nous venons d'assister à la fermeture officielle du Haut Commissariat des droits de l'homme. Et si donc on se permet encore de ne pas avoir un ministère des droits de l'homme, je crains que malheureusement on ne recule dans la garantie des droits de l'homme au Togo.
Les Togolais disent ne pas être surpris par le premier gouvernement du troisième quinquennat de Fornia Singbe.
Si Uni a gagné, je ne vois pas pourquoi il va faire appel à ceux qui se sont opposés à lui aux élections. Les nouveaux entrants, pour moi, ce sont les mêmes personnes.
Le gouvernement a été un peu réduit, mais on pense qu'on peut réduire un peu plus compte tenu des difficultés économiques que nous avons.
L'actuelle équipe gouvernementale ne compte que 4 femmes. Des organisations féminines s'indignent et expriment leur déception. Epiphanie Houmé-Eklou-Kouévanou, coordinatrice du GFDD, groupe de réflexion et d'action, femmes, démocratie et développement.
Nous avons besoin que des femmes soient dans le gouvernement pour inspirer d'autres femmes, pour tirer des femmes vers le haut. Alors, si les femmes sont compétentes, elles ont besoin d'être là où les hommes compétents sont.
Le chef du gouvernement annonce la poursuite des grands travaux et la relance du tourisme. Kaylosson Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Les ministres des Finances de la zone euro discutaient ce soir par téléconférence de la dernière proposition grecque, mais la Grèce était sur le point de se retrouver en défaut de paiement. Le point avec Michel Joseph.
Athènes devait rembourser 1,6 milliard d'euros au Fonds monétaire international d'ici minuit, heure de Washington. Mais le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, a prévenu mardi que cette somme ne serait pas remboursée à la date prévue. La Grèce a annoncé cet après-midi avoir soumis à ses créanciers un nouveau projet d'accord sur 2 ans avec le mécanisme européen de stabilité. Il permettrait de couvrir ses besoins financiers et s'accompagnerait d'une restructuration de la dette. L'objectif serait de faire en sorte que la Grèce demeure in extremis dans la zone euro. De toute façon, rien ne sera décidé avant le référendum de dimanche, dont le Premier ministre Alexis Tsipras promet de respecter l'issue. Le vote portera sur les mesures d'austérité supplémentaires exigées par l'Eurogroupe en échange d'une aide supplémentaire de plusieurs milliards de dollars. M. Tsipras est contre ces mesures.
Et je dis que si les gens, en se basant sur ce climat alarmiste, décident que je me trompe, je servirai comme je l'ai toujours fait, avec ma vérité, mes convictions et ma dignité. Si les gens veulent se doter d'un premier ministre humilié et ridiculisé, ils peuvent choisir quelqu'un d'autre. Ils sont nombreux prêts à le faire, mais pas moi.
Entre-temps, à Athènes, les manifestations contre l'austérité se poursuivent.
Salut les amis, ici Roger Muntou, VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, rap, music. Et notre sujet de ce soir, comment jugez-vous la prestation des équipes africaines au mondial de football féminin au Canada? Pourquoi le sport féminin a du mal à se développer dans certains pays? Et voilà, aujourd'hui aussi les amis, bonne fête de l'indépendance au peuple congolais. Le 30 juin 1960, c'était la proclamation de l'indépendance du Congo. Alors, regard vers le futur de la République démocratique du Congo. Vos points de vue ce soir sur le passé, le présent ou le futur de ce grand pays dans RM Show. Vos réactions aussi sur notre groupe Facebook Roger Muntou, La Voix de l'Amérique. Appelez au 001 202 619 3140 ou envoyez-nous vos réactions par SMS au plus 225 58 92 85 40. RM Show, c'est ce soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Un nouveau cas de fièvre hémorragique à virus Ebola signalé au Libéria.
Un rapport de l'ONU publié aujourd'hui accuse les troupes sud-soudanaises d'avoir violé et brûlé des femmes et des jeunes filles dans le nord du pays.
La procureure de la Cour pénale internationale a dit au Conseil de sécurité de l'ONU que la Cour est déterminée à obtenir l'arrestation du président soudanais Omar Hassan al-Béchir.
La compilation des résultats se poursuivait aujourd'hui au Burundi sans grand suspense au lendemain des résultats d'élections législatives et communales. Ainsi s'achève le Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma, présentation Morgane Gaillec et Camille Grosdidier. Ainsi va le Monde aujourd'hui et retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.